Une fois par mois, dans l'Union, un récit dans lequel on donne la parole à un Européen ou une Européenne afin qu'il ou elle nous livre un témoignage, une anecdote, qui met en avant ce que peut incarner l'Europe pour lui ou elle dans ce qu'elle peut avoir de bon comme de négatif. Y a-t-il une mémoire collective européenne ? Quels sont les souvenirs liés à l'Union Européenne et quelle expérience les 15-35 ans font-ils de l'Europe en 2022 ? Ayant grandi en France, j'ai appris dans un premier temps dans ma famille, puis à l'école, l'importance de l'Union Européenne, gigantesque projet de paix réparateur des blessures de la Seconde Guerre mondiale et à l'origine de réformes libérales et sociales. Habitant aujourd'hui à Bruxelles, je me suis, pendant plus de 20 ans, défini comme un Européen convaincu, pur et dur, qui au grand jamais ne pourrait remettre en cause les bienfaits de la Sainte Union. Mais au fil de rencontres avec les gens de ma génération, lors de voyages, de promenades, de pendaisons de crémaillère ou de verres au comptoir de bar, une question revenait sans cesse. À quoi sert réellement l'Europe ? Comment peut-elle aussi mal communiquer de telle manière que ces 447 millions de ressortissants et ressortissantes puissent à ce point ne rien savoir ni comprendre de ses agissements ? Je me suis donc dit que raconter son expérience faite de l'Europe, c'était mettre en avant ce qui fonctionnait, mais aussi pointer du doigt les absurdités d'un territoire que nous partageons tous et toutes. C'est raconter toutes les situations, plus ou moins banales, de la vie quotidienne, dans laquelle nous, génération Y et Z, interagissons avec l'Union Européenne. Chaque mois, la parole est à trois jeunes, afin qu'ils et elles nous témoignent de leur expérience faite de l'Europe, en paroles et en chansons, en nous racontant une anecdote de leur choix.
Je m'appelle Marcus et je suis originaire de la communauté germanophone de Belgique, que peu de personnes ne connaissent. Effectivement, c'est une petite partie de la Belgique qui existe maintenant depuis plus de 100 ans. Donc, on a fêté ça en 2020. C'est une petite communauté, donc on est à un peu plus de 76 000 habitants. Donc, nous avons trois ministres et un ministre-président, et nous avons aussi un parlement. Donc nous sommes une communauté entièrement reconnue. Je vais plonger vraiment dans le passé, parce que cette anecdote, pour moi, elle commence quand même déjà il y a plus ou moins 120 ans, avec la naissance de mon grand-père qui ne vit plus, mais qui a laissé de profondes traces en moi. Bon, il est né en 1903, donc si mes souvenirs sont bons, je ne sais pas par cœur, mais c'est 1902 ou 1903. Donc il a été allemand au début du siècle, et puis il y a eu la Première Guerre mondiale, où il a perdu pas mal de membres de sa famille, des oncles, et il avait 13 ans quand la guerre a éclaté, donc il a vécu un peu les atrocités de la guerre. Et quand le traité de Versailles a décidé donc de donner une partie de l'Allemagne à la France, mais aussi à la Belgique, il s'est retrouvé du coup en tant que Belge. Ce qui en soi ne lui posait pas de problème, jusqu'au moment où le Troisième Reich, c'est-à-dire les nazis, ont repris, donc re-annecté, cette partie de l'Allemagne, donc de l'ex-Allemagne, mais qui est redevenue allemand, donc il s'est retrouvé de nouveau dans le camp des Allemands, et il a été enrôlé de force, donc à la Wehrmacht, et il était profondément contre, mais il était à cheval aussi entre, donc quand qu'il a été enrôlé de force, il était à cheval entre son éducation qui avait comme base, comme l'obéissance à l'autorité, et d'un autre côté, son devoir en tant que être humain. Et il a tranché parce qu'il savait que sa famille allait être en danger s'il allait se réfugier en tant que partisan. Donc il a décidé de faire partir de cette armée malgré lui. Et heureusement, il a survécu parce qu'il a gardé son passeport belge quand il était en Russie en tant que prisonnier. Et ça lui a valu un séjour assez court en Russie. Je crois qu'il est resté un an. Justement, il avait gardé dans son bas, il avait gardé son passeport belge et l'a montré à un gardien russe, donc un soldat russe qui le gardait. Ils avaient lié amitié parce que mon grand-père, il priait, donc il avait le rosaire sur lui. Et le russe lui a demandé s'il pouvait l'avoir. Il a dit, ben, qu'est-ce que t'en penses si on le partage ? Donc ils ont coupé en deux le rosaire, il a donné une partie, et depuis, il n'avait pas des avantages, mais en tout cas, il a pu montrer son passeport belge. Et ça, c'est, je trouve, une belle histoire aussi de partager quelque chose avec un soi-disant ami, ennemi, pardon, et qui est devenu un ami. Bon, on a perdu un peu les traces, mais voilà, c'est une belle histoire qui explique bien que j'ai plutôt envie de dire qu'il était pacifiste, plutôt que nationaliste. C'était vraiment le moment où ma maman n'était pas encore née, donc la plus jeune des quatre enfants. Donc il n'a pas vu ma mère, donc sa fille, avant qu'elle n'ait 3 ans. Donc pour elle d'ailleurs, c'était un choc, car on lui a souvent parlé, on a montré des photos, quelques photos de lui. Et quand il est revenu de la guerre, de cet emprisonnement temporaire, il était méconnaissable par rapport aux photos et aux seuls souvenirs qu'elle avait de lui. Et elle lui a dit, mais qu'est-ce que vous, en tant qu'étranger, voulez dans notre maison? Donc je pense aussi, ça c'est quelque chose de très dur à vivre quand on revient de quelque chose d'horrible et qu'on n'est pas reconnu par sa propre famille ou qu'on a raté un peu une partie de la vie de cette famille. Et là commençait pour lui une deuxième partie de la guerre, c'est-à-dire faire preuve comme quoi elle n'était pas collaborateur des nazis et qu'elle était bel et bien un Belge. Une fois libérés, les prisonniers retournaient de leurs propres moyens au pays d'origine. Et il se faisait tout de suite capter donc dès qu'il traversait une frontière, parce qu'évidemment tous les pays, je dirais, ou ceux qui ont les gagnants, ils voulaient chercher les collaborateurs ou les anciens nazis ou voilà, donc différents types de personnalités ou qu'on cherchait. Et donc il a été pris en charge par les autorités belges, donc il a été emprisonné à Bruxelles. De là, on l'a emmené en train jusqu'à Verviers. Donc, il y avait une prison à Verviers, où il est resté 2 semaines pour suivre plusieurs interrogatoires sur son origine. Et là, de nouveau, il a montré son passeport belge. Il a pu raconter, à mon avis, son aventure, son histoire à la Wehrmacht. Et puis, il a pu rentrer en tram. Mais ça faisait partie du châtiment aussi des gagnants. Donc, il devait laisser l'uniforme allemande, c'est la seule chose qu'il avait, que des habits, quand il était soldat. Et il a raconté que ce trajet, qui normalement en tram durait 1 heure, il a fait en une journée, parce que on le tabassait, on le frappait, on le menaçait. Et c'est seulement avec ce passeport qu'il a chaque fois pu se sauver, mais malgré ça, du côté des francophones, la communauté germanophone n'était pas bien vue parce qu'on était supposé être tous des collaborateurs et collaboratrices. Donc ça lui a mis une journée pour atterrir finalement à son domicile. Et là de nouveau, il y a eu un interrogatoire à Eupen. Et suite à ça, donc quand il a passé tout ce stade-là, il a pu se rendre à pied. Donc il a changé 3 fois de nationalité. Donc ce conflit d'identité et ce conflit de nationalité l'a fortement marqué, et c'est quand il a appris la naissance de l'Europe ou la constitution de l'Europe. Pour lui, c'était comme un grand soupir. Je me rappelle pas de la situation, mais je me rappelle que mes parents ont dit, il était vraiment très heureux parce qu'il a dit, on a la paix. Et je pense, après coup maintenant, je ne sais pas, peut-être il me contredira, mais je pense qu'il était plutôt belge. Pour plusieurs raisons, c'est-à-dire parce que c'était quand même entre guillemets le pays des ennemis, c'était l'Allemagne, et la Belgique, parce que c'est comme ça que je l'ai vu comme enfant aussi, on était du côté des bons et pas des mauvais. Donc je crois que ça a marqué notre communauté aussi, c'est-à-dire de se dire, et d'ailleurs je l'ai vécu en tant qu'enfant quand on allait en vacances, surtout quand on allait en France ou en Espagne. On était interdit de parler allemand. Donc on parlait français parce qu'on ne voulait pas être allemand. Après ça, c'est sûr qu'ils se sont sentis comme des Belges. Et je dois dire aussi que je pense la force de la paix et de s'être retrouvé quand même en famille entière, c'est-à-dire il n'y a pas eu de père dans la petite famille de base, et je pense que c'est ça qui a donné cette force de résister à cette pression psychologique qu'une guerre peut faire sur un être humain. Parce que je crois que la force, la force, l'énergie qu'ils avaient d'avoir vécu, survécu, cette atrocité, était plus forte que la dépression ou le poids psychologique. Et c'est pour ça, je crois, en priant et en remerciant d'être sortis de cet enfer vivant, a fait qu'ils ont pu rire, élever des petits-enfants et être de très chouettes grands-parents. Dieser kleinen Welt voller Traum und Sagen, was sie zusammenhält, liegt weit, weit, weit von hier entfernt. Jemand hat uns bestellt. Sagen, so wie ein Vogel fliegt, weit, weit, weit in seine Zeit.
Je m'appelle Cornelia Lillis, mais tout le monde m'appelle Connie. Et je suis d'origine irlandaise et italienne. Et j'ai aussi en fait la nationalité britannique, puisque ma famille irlandaise s'est installée en Angleterre. Quand la pandémie est arrivée, en fait en 2020, moi j'étais en train de faire un master au Centre international de formation européenne, qui est basé à Nice. Et en fait, ils proposent des masters un peu comme des séjours Erasmus où on a la chance de pouvoir étudier dans 3 villes différentes européennes. Et pour moi, en fait, j'ai fait ce choix de rester à Nice pour faire le confinement là-bas. Et c'était pas très dur à Nice de se motiver pour sortir. Mais quand même, la police niçoise, elle était assez stricte. On n'avait pas du tout le droit de se promener sur la promenade des Anglais. J'ai souvent eu en fait la police qui m'arrêtait parfois lorsque je regardais la mer. Et on me disait un peu que c'est pas quelque chose d'obligatoire, de nécessaire. Alors que pour moi, quand on est confiné dans 9 mètres carrés, c'est quand même, ça nous change les idées un peu. C'était très petit. Il faisait extrêmement chaud, puisque c'était on commençait à faire été, on commençait à avoir l'été. Et en fait, je voyais que les gens en fait qui habitaient dans le même crous. Mais en fait, je pense qu'on n'avait pas vraiment le droit de se voir dans les espaces communs. C'était fermé. Du coup, c'était plutôt en passant ou si on voyait une autre personne qu'on faisait cela. Parce que tout le monde avait vraiment peur au début. Ouais, moi je passais quand même la plupart de mon temps seule. J'écoutais des podcasts. Non mais vraiment. Mais en fait, ce que j'ai vite vu, c'est qu'il y avait une grosse différence en fait entre les étudiants qui venaient de l'Union européenne et ceux qui provenaient d'États tiers. Puisque j'avais en fait des collègues qui venaient par exemple de l'Arménie, de la Géorgie, la Syrie et même les États-Unis. Et pour eux, l'histoire était complètement différente. Déjà, c'était à Berlin, on a déjà eu des problèmes du coup pendant le premier trimestre où ils devaient faire leur application en fait pour un prolongement, je pense, de leur visa pour pouvoir y aller en France. Et puis, avant d'y aller à Nice, déjà, c'était pas sûr en fait où on allait tous loger. À Nice, il y avait 2 crous où on pouvait y aller, mais en fait, on nous a divisés. Du coup, il y avait tous les Européens dans un crous et tous dans un autre, puisque il a fallu en fait avoir cette adresse pour les non-européens, disons les pays tiers de l'Union européenne. Le CROUS, en fait, nous a dit que on avait, je pense, 20 chambres qui étaient réservées pour notre master à la base. Et alors, puisque eux, ils ont fait la demande pour avoir un visa ou un prolongement de visa, il a fallu qu'ils aient une adresse provisoire pour pouvoir faire cette demande. Alors, on les a tous mis dans le même CROUS, on les a tous mis dans ce CROUS-là, et nous, on était de l'autre côté de la ville, dans un autre CROUS. Alors déjà, ça, c'était quand même difficile parce qu'on ne voulait pas être divisés du tout. Moi, en fait, j'ai fait beaucoup d'amis des pays de l'Est, en fait, qui ne sont pas encore ou ne sont pas membres de l'Union européenne. Et voilà, on ne voyait pas de différence vraiment entre nous, mais voilà, on nous a imposé cette différence. Les amis que j'avais, ils étaient dans l'autre CROUS. Et du coup, on ne pouvait pas se voir, puisqu'on avait 1 heure par jour pour sortir. On était de l'autre côté de la ville. Et ça compliquait les choses. Alors, voilà, dans mon CROUS à moi, il fallait que je fasse connaissance avec d'autres personnes, ce qui était bien parce que ça m'a forcé en fait à faire de nouveaux amis. Mais quand même, on aurait pensé que voilà, avec les Anglais, avec les Américains, tout, que je m'entendrais bien. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est apprendre en fait des choses des autres cultures, surtout. Et voilà. Et trouver des choses en commun avec des gens qui viennent peut-être de plus loin. Mais mes amis les plus proches, en fait, de mon master, ils étaient loin, même si on était dans la même ville. Voilà, un de mes amis proches venait de la Syrie. Et lui aussi, par exemple, voilà, je le voyais presque jamais. J'avais aussi un ami kosovar qui faisait partie de ce groupe-là. Et franchement, je m'entendais très très bien avec eux, mais il a fallu qu'ils soient dans un autre CROUS. Faisait que je pouvais, en fait, après nos premiers 3 mois ensemble, que j'ai pas vraiment pu, en fait, faire connaissance avec eux plus. Voilà, ils ont dû tous être ensemble, alors que les amitiés se divisent pas entre Européens et non, ou... Je veux pas dire non-européens parce que certains d'entre eux se sentaient terriblement européens. Mais voilà, selon la loi européenne, enfin, la loi de l'UE, ils sont considérés comme non-européens. Mais voilà, comme j'ai dit, les amitiés connaissent pas en fait cette division et c'était très, enfin, c'était arbitraire. Du coup, c'était une expérience enrichissante, comme ça, mais aussi, comment est-ce qu'on dit bittersweet? Une bonne expérience, mais il y a un goût amer un peu.
Alors, je m'appelle Pauline, j'ai 27 ans. Je viens de Liège, en Belgique, mais depuis quelques mois, j'habite à Bruxelles. Et je suis traductrice. J'ai fait mes études en Belgique, en anglais et en italien. Alors, ça se passe en 2019, si je dis pas de bêtises, ou 2018, je sais plus exactement l'année. J'étais partie en Erasmus 2 ans avant, en Italie, au lac de Côme. Et j'avais rencontré une copine française qui s'appelle Mathilde, qui vient de Lyon et qui, elle, faisait son stage à Parme, près de Milan. Et du coup, elle m'avait proposé de venir lui rendre visite pendant un week-end. Et on avait passé d'abord 2 jours à Milan avant de partir à Parme et qu'elle retourne travailler et que je passe quelques jours là-bas. Et en fait, moi, quand j'étais en Erasmus, j'avais mon meilleur ami qui était aussi en Erasmus à Milan. Et lui avait vécu chez une dame en famille d'accueil. Donc j'avais rencontré cette dame, j'avais eu un bon contact avec elle, etc. Et donc quand on est parti à Milan pour le week-end, elle nous a proposé de nous héberger. Donc on dormait chez elle pendant le week-end, on faisait notre petite vie, on avait les clés, etc. Et puis cette dame était très gentille et on a passé tout le week-end avec elle et sa fille. Le samedi soir, on décide de sortir en soirée, sortir en boîte, etc. avec des copines à elle qui étaient aussi à Milan. Donc on a passé toute la soirée en vadrouille dans tous les sens, on est sorti en boîte et on rentre, je crois, très tard ou très tôt, ça dépend comment on voit les choses, et on rentre en taxi, et en fait la rue dans laquelle il y avait la maison était une rue à sens unique, donc on dit au taxi, bah, déposez-nous ici au bout de la rue et on va marcher vraiment 2 minutes 30 pour rentrer à l'appart, quoi. On arrive devant la maison, on met la clé dans la serrure, et à ce moment-là je sens une pression sur mon épaule et en fait un mec me vole mon sac littéralement à l'arraché, quoi. Le mec se barre en courant, moi je commence à essayer de le courser en me prenant pour Usain Bolt alors qu'en vrai je sais pas courir. Y a des mecs dans la rue qui commencent à essayer de le courser aussi, on n'arrive pas à le rattraper, il passe dans une petite cour d'immeuble comme il y a partout en Italie, des espèces de cours qui relient les rues entre elles, etc. On le perd en chemin et donc j'ai plus de sac à main, sauf que je me rends compte en rentrant, au début on me dit « Oh tant pis, c'est qu'un sac », que dedans il y a mes papiers d'identité, il y a ma carte de banque, je prends l'avion 3 jours après, j'ai plus rien. Donc un vrai plaisir, donc on rentre, moi je suis hyper énervée, je sais pas ce qui va m'arriver, comment on va faire, j'ai plus d'argent, j'ai plus de papier d'identité, j'ai plus rien. Donc bon, on va se coucher parce qu'il est quand même très tard, et le lendemain la dame du coup chez qui on loge, je lui explique l'histoire, elle me dit écoute on va essayer d'arranger ça etc, on va aller au commissariat. Donc on va au commissariat en Italie, un dimanche matin à 9h du mat, vraiment on est arrivé, il y avait personne à l'accueil, mais il y a un accueil avec une porte verrouillée où tu peux pas rentrer dans le commissariat parce que c'est un dimanche je suppose, il y a personne, donc on a dû poireauter, toquer à la vitre alors qu'il y avait personne, et il y a quelqu'un qui est arrivé une demi-heure après parce qu'il allait fumer une clope, il avait son café en main et tout, ah oui vous voulez quoi machin, on est arrivé et il y avait un flic qui manifestement n'avait pas très envie d'être là, il n'était pas très bien réveillé, le mec très clairement il savait pas ce qu'il faisait là, quoi. Je sais pas qui c'était, mais... Et c'était vraiment le mec assis derrière son bureau, affalé sur sa chaise, avec un petit papier en mode « Oui, oui, je vous écoute », mais en soi, le mec, il s'en foutait, quoi. Donc je lui dis, pour mes papiers d'identité, je fais comment? Parce que dans 3 jours, je prends l'avion, et sans carte d'identité, je peux pas trop me déplacer, quoi. Donc il me dit, bah, allez à l'ambassade, il y a une espèce de, je sais pas comment on dit, une succursale de l'ambassade à Milan. Donc je dis, bah super, trop bien. Il me dit, je sais pas si c'est ouvert le dimanche, mais essayez d'appeler, etc. Il me note le numéro et l'adresse du truc. J'appelle le numéro n'existe pas. Donc je me dis, bon, ok, au pire, on n'est pas très loin. On va aller voir sur place. On arrive au bâtiment, c'est pas du tout une ambassade. Et en fait, il s'avère qu'il n'y a pas du tout d'ambassade d'Italie à Milan, qu'il n'y en a même jamais eu. Donc on sait pas trop d'où le type sortait et surtout pourquoi il nous a donné cette adresse qui n'existe pas. Et en fait, il se trouve que la seule ambassade est à Rome. Et qu'en fait, il n'y en a pas d'autres, et que rien ne peut se faire par téléphone ou par internet, et que du coup, je dois aller à Rome. Sauf que je dis, mais moi, j'ai plus d'argent, déjà, dans un premier temps, et je ne vais pas me taper un aller-retour à Rome en une journée, ça va me coûter une blinde, ça va me prendre tout mon temps, alors que je dois partir à Parme, enfin, rien n'avait de sens. Du coup, au final, on retourne à la police, en disant à ce gars, bah, il n'y a pas d'ambassade, donc qu'est-ce que t'as foutu? Il dit, oh, je sais pas, c'est ce qu'on m'a dit, le supérieur, etc. Enfin, entre eux, ils se renvoient la balle, le supérieur arrive, j'ai jamais dit ça. Enfin, en vrai, on sait pas d'où ils ont sorti cette adresse n'existe pas, c'était genre un bâtiment de maison, enfin, c'était hyper bizarre. Donc, on rentre, je me retrouve toute seule à Parme, j'ai pas de téléphone, mais du coup, bah. Moi, je pensais visiter et tout, machin, mais en vrai, je me rends compte que sans Maps, on sait plus faire grand-chose, quoi. Moi, je sortais de chez elle, elle me disait, va là, on a imprimé des cartes, genre, imprimées sur papier, quoi. Et du coup, j'ai visité à moitié. En vrai, je m'arrêtais dans des cafés, je regardais Maps sur l'ordinateur en me disant, faut que je retienne le chemin, sinon je vais carrément me perdre. C'est un peu perturbant parce que je me dis, à la limite, je serai dans une ville et je me perds. Je serai dans Milan, je me perds. parce que j'ai décidé de me perdre et que j'ai décidé de me balader. Si je veux rentrer, je mets Maps, je sais pas où je suis, mais je sais que je vais toujours retrouver un chemin. Là, je me dis, si je me perds, bah, je suis perdue en fait. Enfin, je peux même pas, après, je devais rentrer chez ma pote ou la rejoindre dans un endroit. Je sais pas où c'est une ville que je connais pas, je suis jamais allée de ma vie. J'ai des potes, elles sont parties à Barcelone. Et en fait, elles ont été se baigner dans la mer et elles avaient laissé leurs affaires sur la plage. Elles sont teubées aussi, hein. Mais du coup, elles avaient leurs trucs à vue, mais elles étaient dans l'eau. Mais elles étaient pas loin en plus, je crois. Et je crois qu'elles avaient demandé aux gens à côté, vous pouvez pas regarder nos affaires et tout. Je pense qu'ils se sont endormis ou je sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, elles se sont tout fait voler. Mais pour le coup, tout, elles avaient plus de fringues. Elles avaient plus rien. Du coup, elles étaient en bikini et elles avaient plus rien. Et en gros, elles ont dû aller voir les gardes-côtes et leur demander genre un t-shirt pour pouvoir déambuler dans la ville. Elles avaient un t-shirt qui leur faisait une robe et elles avaient plus rien non plus, quoi. Plus de papier d'identité, plus de carte de banque et tout. Et elles avaient exactement la même galère de devoir trouver comment prendre l'avion et, mais en Espagne du coup, mais c'était pas mieux apparemment. Du coup, je me suis un peu perdue dans Parme pendant 2 jours et j'ai surtout essayé de comprendre comment j'allais pouvoir prendre mon avion le mardi soir. Et donc, j'ai dû appeler la compagnie de voyage qui, eux aussi, se sont renvoyés la balle avec l'ambassade, que j'ai dû appeler, qui peuvent rien faire par téléphone, etc. Et donc, au final, j'ai pu prendre l'avion avec des papiers d'identité qui étaient scannés. Parce que j'ai appelé ma mère, qui était sur mon ordi en Belgique, avec le papier de la police qui disait que je m'étais fait voler tous mes papiers et mon sac, etc. Et jusqu'au moment où je suis arrivée à la porte d'embarquement de l'avion, je ne savais pas si j'allais pouvoir embarquer parce que personne ne m'avait donné la même réponse. Et au final, j'ai pu embarquer parce que je suis tombée sur une meuf très gentille, je pense. Je ne sais pas si ça serait passé si c'était quelqu'un d'autre. Et je ne sais pas si ça serait passé à une douane, mais bon, Italie, Belgique, en soi, il n'y a pas vraiment de contrôle de douane, donc ils s'en foutent. Je serais dans un pays où il faut un passeport ou un pays où ils contrôlent à la douane ou qui contrôle quoi que ce soit, je n'aurais pas pu prendre l'avion et je ne sais pas comment. J'aurais dû aller à Rome, j'aurais dû faire 12 000 péripéties administratives. Là, au final, personne n'a... C'est une hôtesse de l'air qui a contrôlé mon truc, quoi, donc... L'hôtesse de l'air, en soi, elle s'en fout. Pour moi, c'était grave un avantage parce que je suis contente d'apprendre l'avion, mais en soi, c'est quand même pas ouf, quoi. Enfin, de dire n'importe qui peut monter dans un avion dans l'Union, du coup, parce qu'il faut pas de visa et pas de passeport, etc., avec une photocopie d'une carte d'identité qu'on sait même pas trop ce que c'est et un papier signé par un flic le dimanche matin qui est juste là en train de boire son café, quoi. Ah. Appelle-moi le dé, le liégeois. 4-0-0 ma commune, mais j'ai pas eu le choix. Le 28 du 9, 92, elle accoucha. Dans cette ville où les tocs et les putes ne se couchent pas. Protection de la daronne, appelle-moi le dé, l'intouchable. J'ai peur sur les ponts, y'a trop de vent. Sur les places, y'a trop de gens. Sur les trottoirs, y'a trop de sang. Dans ma tête, y'a trop de plans. Je laisse passer trop de temps, donc je ne regarde que droit devant. Je calcule plus les passants. Et année après année, je me débrouille tout seul. Un peu jeune, mais attiré par les sous-sols. Et quand la ville est calme, il paraît que les caves sont folles, il paraît que les bois s'envolent, il paraît que les gens sont barrés, t'arrêtes d'arrêter dans le carré, je suis pas paré, l'air est faré, c'est ce que les gens me disent, mais j'ai commencé la tease, à l'époque où les motises n'existaient pas encore, je redécouvre ma ville avec de l'alcool fort, je suis enfin sorti de ma zone de confort, check, ça vient de ma rue, mon quartier, ma putain de vie, yeah, je garde 1000 putain de vie, ça vient de ma rue, mon quartier, ma putain de vie. On rêve tous de se barrer, mais on reste ici. Ça vient de ma rue, mon quartier, ma putain de vie. Yes, 4000 putain de vie. Ça vient de ma rue, mon quartier, ma putain de vie. On rêve tous de se barrer, mais on reste ici.
C'est donc avec le dé et le titre Liège-Liège que s'achève cet épisode de l'Union, dans lequel se seront croisés Seconde Guerre mondiale, division entre Européens et pays tiers, et administration italienne le dimanche. Nous aurons également écouté l'artiste belge germanophone Andy Hussscheid avec le titre Kleinwelt, et le groupe Krangbin avec Como Me Quieres. Merci à Marcus, Connie et Pauline pour leur participation. Merci à Adèle Piantavigna pour les drums sur ma voix. À dans un mois.